Vous écoutez, on lit pour vous.
Les 30 ans de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing et leur importance pour l'égalité des sexes. Un texte de la rédaction paru le 24 janvier 2025 sur la page d'ONU Femmes. La Déclaration et le Programme d'action de Beijing constituent le plan le plus complet et le plus visionnaire jamais créé pour parvenir à l'égalité des droits de toutes les femmes et les filles. Approuvé par 189 gouvernements en 1995, lors de la 4e Conférence mondiale sur les femmes, le programme s'articule autour de 12 domaines d'intervention appelés « sujets de préoccupation essentielles ». Ces domaines portent sur l'emploi et l'économie, la participation politique, la paix, l'environnement, l'élimination des violences faites aux femmes et bien d'autres questions. L'année 2025 marque le 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing. C'est une année charnière pour le féminisme. Le temps est venu de lutter pour les droits des femmes et des filles, d'exiger l'égalité des sexes et de promouvoir l'équilibre des structures de pouvoir afin de garantir l'égalité des chances dans le monde. Êtes-vous prêt, prête? Pourquoi le Programme d'action de Beijing est-il important? L'égalité des sexes concerne tout le monde, partout dans le monde. Selon le Programme d'action de Beijing, l'égalité des sexes constitue en effet le fondement de tous les efforts déployés pour faire advenir des sociétés plus pacifiques et plus prospères, ainsi qu'une planète durable. Comme son nom l'indique, il privilégie l'action et non les grands discours. Pour chaque sujet de préoccupation essentiel, il répertorie les étapes convenues pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Les mouvements féministes, de jeunesse et d'autres mouvements de la société civile ont longtemps défendu un grand nombre de ces objectifs et ont joué un rôle clé dans l'élaboration du programme. Aux côtés des représentants des gouvernements, ces mouvements constituaient l'essentiel des 17 000 personnes présentes à la 4e Conférence mondiale sur les femmes. Grâce au programme d'action de Beijing, les pays disposent d'un plan d'action et savent ce qu'ils doivent faire. Les engagements pris par chaque gouvernement influencent la politique intérieure et étrangère, ainsi que les investissements dans les lois, les politiques et les programmes visant à progresser sur la voie de l'égalité des sexes. Tous les 5 ans, les pays vérifient qui fait quoi et à quel endroit, ou l'absence d'action. Chacun a la possibilité de donner son avis sur les progrès et les obstacles à l'égalité des sexes dans son propre pays. Ces évaluations permettent de maintenir les progrès et de donner de la visibilité à l'urgence de l'égalité des sexes. Quels progrès ont été réalisés en matière de droits des femmes depuis l'adoption du programme d'action de Beijing? Prenez un moment pour réfléchir aux avancées en matière d'égalité des sexes que vous avez pu constater dans votre propre vie ou dans votre pays. Il y a de fortes chances qu'elles soient liées, d'une manière ou d'une autre, à la dynamique mondiale déclenchée par la Déclaration et le Programme d'action de Beijing. Et c'est là que réside toute la force d'un accord et d'action partagé. En près de 3 décennies, le Programme de Beijing a permis des progrès significatifs pour les femmes et les filles du monde entier, prouvant ainsi que le changement est possible. Une meilleure protection juridique pour les femmes et les filles. Le programme d'action de Beijing a suscité une prise de position mondiale contre les violences basées sur le genre, avec l'adoption de 1583 lois contre ces violences adoptées dans 193 pays, contre seulement 12 pays en 1995. 354 d'entre elles concernent la violence domestique. Aujourd'hui, certains pays procèdent à l'actualisation de leurs lois pour prendre en compte les nouvelles formes de violence liées à la technologie. Services et soutien aux survivantes. Les gouvernements ont accepté de fournir des refuges, une aide juridique, des conseils et des soins de santé aux survivantes de violences, des services essentiels qui sont désormais accessibles dans la plupart des pays. Plus de 100 pays ont formé la police à soutenir les survivantes, une étape importante pour demander justice et prévenir la violence à l'égard des femmes. Autonomisation économique des femmes. Parmi les progrès réalisés depuis 1995, on peut citer la diffusion quasi mondiale d'une législation interdisant la discrimination fondée sur le sexe en matière d'emploi. De nouveaux services ont été mis en place pour alléger la lourde charge de travail domestique non rémunéré qui pèse sur les femmes, et les écarts entre les sexes se sont réduits dans le domaine de l'éducation. Les femmes dans la consolidation de la paix. Le programme d'action de Beijing a permis de faire passer le nombre de plans d'action nationaux en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité de 19 en 2010 à 112 aujourd'hui. Il a ainsi donné aux femmes les moyens de jouer un rôle de premier plan dans la résolution des conflits, la consolidation de la paix et la défense des victimes de violences sexuelles commises dans les zones de conflit. Il reste cependant beaucoup à faire pour allouer des moyens à ces plans et les mettre en œuvre. Les moins bonnes nouvelles. Quels sont les obstacles à l'égalité des sexes? La discrimination fondée sur le genre est profondément ancrée dans nos sociétés et même dans nos propres esprits. Les disparités entre les sexes qui en résultent sont encore amplifiées par un monde extrêmement inégalitaire. Ces dernières années, les pressions exercées par la pandémie de COVID-19, les crises économiques, les conflits et l'urgence climatique sont autant de facteurs qui compliquent la situation et se conjuguent à une résistance croissante à l'égalité des sexes et à un débat politique polarisé. De plus en plus de femmes vivent dans des situations de conflit et de crise. En 2023, plus de 170 conflits armés ont été recensés. 612 millions de femmes et de filles vivaient dans un rayon de moins de 50 kilomètres de ceux-ci, un chiffre qui a plus que doublé depuis les années 1990. Trop de femmes restent pauvres. Près de 10% des femmes et des filles dans le monde continuent à vivre dans l'extrême pauvreté et n'ont aucune possibilité de s'en sortir. Dans le scénario climatique le plus pessimiste, 158,3 millions de femmes et de filles supplémentaires pourraient basculer dans la pauvreté d'ici 2050. Les progrès autrefois prometteurs en matière de réduction de la mortalité maternelle sont en panne, principalement dans les pays et les communautés les plus pauvres et les plus fragiles. 113 pays n'ont jamais eu de femmes chefs d'État. La participation des femmes à la vie politique progresse. La proportion de femmes a plus que doublé à l'échelle mondiale, passant de 11 % à 27 % aujourd'hui. Pourtant, à ce rythme de changement, la parité entre les sexes reste illusoire. Le problème mondial des violences faites aux femmes et aux filles persiste, avec peu de signes d'atténuation. Environ 736 millions de femmes ont été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou de violences sexuelles de la part d'une autre personne à un moment donné de leur vie. Les taux ont tendance à augmenter en période de crise et de nouvelles formes apparaissent par le biais des technologies numériques. En outre, les femmes et les filles sont confrontées à davantage de risques de discrimination fondés sur le sexe lorsqu'elles sont également touchées par d'autres formes d'exclusion, notamment celles fondées sur le handicap, la race, l'âge, le revenu ou l'orientation sexuelle. Quel lien existe-t-il entre la déclaration et le programme d'action de Beijing et les objectifs mondiaux de développement durable? Qu'il s'agisse de pauvreté, d'éducation ou d'action climatique, l'ensemble des 17 objectifs de développement durable, ODD, dépendent tous de la réalisation de l'égalité des sexes. À l'image du programme de Beijing, les ODD ont une portée mondiale. Nous ne les atteindrons pas sans la participation de la moitié de l'humanité, les femmes et les filles. Cela signifie que nous ne parviendrons jamais à éradiquer la pauvreté, à améliorer la santé et à empêcher un effondrement planétaire, entre autres objectifs, sans respecter et promouvoir les droits de toutes les femmes et les filles. Pour entrer dans le détail, ONU-Femmes a constaté que 14 des objectifs de développement durable dépendent de l'élimination des violences basées sur le genre. Il s'agit d'une violation massive des droits humains, qui fait de nombreuses victimes et réduit à néant les chances de travailler et d'aller à l'école. Les coûts économiques se chiffrent en milliers de milliards de dollars chaque année, des fonds qui pourraient servir à résoudre d'autres problèmes urgents. Les pays qui sont confrontés à des taux élevés de violences basées sur le genre sont davantage exposés au risque de conflits violents, ce qui met hors de portée l'ODD-16 sur les sociétés pacifiques. Maintenant que vous savez pourquoi le programme d'action de Beijing reste à l'ordre du jour et comment sa mise en œuvre va dynamiser l'égalité des sexes et le développement durable, rejoignez la campagne d'ONU Femmes, mon clic pour toutes les femmes et les filles, pour découvrir ce que vous pouvez faire. C'était les 30 ans de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing et leur importance pour l'égalité des sexes. Un texte de la rédaction paru le 24 janvier 2025 sur la page d'ONU Femmes.
Santé mentale, le pouvoir d'expliquer ce qu'il se passe dans nos mondes intérieurs. Un entretien dirigé par Véronique Laurent paru le 7 janvier 2025 dans Axel. Santé mentale. Très vite, surgissent des images de maladies mentales et leur cortège effrayant de représentations de la folie, mais la discipline recouvre des réalités bien plus larges, certaines spécifiques aux femmes. On parle diagnostic, normes, contexte et aussi savoir expérientiel. Décloisonnement et feu sacré, avec Eleni Alevanti, docteur en sciences sociales et intervenante psychosociale en équipe mobile de crise, et avec Muriel Schiltz, massothérapeute spécialisée dans l'accompagnement de l'âge et de la maladie. Quelle est la différence entre santé mentale et maladie mentale? Muriel Schiltz. La santé mentale est la prise en considération de la santé psychique au sein du champ de la santé. Toutes les personnes qui souffrent de maladies mentales ont un problème de santé mentale, mais toutes les personnes en souffrance psychique ne sont pas dans la maladie mentale, qui est, elle, liée à un envahissement de la sphère intra- et interpersonnelle avec de grosses difficultés à fonctionner au quotidien. Eleni Alevanti. Je rejoins cette définition comme envahissement, effet de ne pas pouvoir fonctionner comme on le souhaiterait en période de trouble. Le seul point sur lequel je serais prudente, c'est que quand on parle de maladie mentale, on constate dans le monde médical et de la psychiatrie, mais aussi auprès du grand public, des phénomènes de pathologisation et de stigmatisation de personnes diagnostiquées de supposés troubles psychiatriques. L'Organisation mondiale de la santé définit la bonne santé mentale comme un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler, et de contribuer à la vie de la communauté. Cette définition vous semble-t-elle satisfaisante? Muriel, elle est sur le point d'affronter les stress de la vie. En état de bonne santé mentale, on a la capacité de se projeter dans des ailleurs, des futurs, même si on a temporairement un souci. Ce qui est différent de l'impuissance, de subir sa vie. Ce que je trouve insatisfaisant, ce sont les notions d'apprendre et travailler bien qui renvoient à quelque chose de très normé, alors qu'on voit que ça ne suffit pas pour avoir une bonne santé mentale. Le monde du travail et celui de l'éducation sont même parfois des lieux un peu maltraitants. Eleni, je crois qu'il y a des dimensions très politiques complètement mises de côté dans cette définition. Il y a beaucoup d'inégalités dans les ressources que l'on a pour affronter la vie. On voit beaucoup de disparités dans les chiffres aussi, sur qui est impacté par des difficultés et des périodes de troubles, avec des corrélations assez directes, mais peu abordées, entre santé mentale et pauvreté. Un deuxième facteur, tout aussi peu abordé, c'est la question de l'abus dans l'enfance. La difficulté en santé mentale est qu'il s'agit d'expériences subjectives. Et le ou la professionnelle qui va recevoir le récit va l'analyser avec ses propres biais. Poser un diagnostic donne des clés à la personne pour comprendre ce qui lui arrive, mais ferme aussi des portes par rapport aux causes. Et il y a toujours des circonstances extérieures, souvent liées à des traumas, des changements stressants, des difficultés relationnelles, des abus, du harcèlement. En Wallonie, selon l'enquête de santé 2018 de Science Sano, plus d'une personne sur trois présentait des signes de mal-être psychologique. Parmi elles, 4 femmes sur 10 contre 3 hommes sur 10. Depuis, il y a eu la pandémie, sans parler des multiples crises géopolitiques, climatiques, économiques. Cette augmentation du mal-être, et chez les femmes en particulier, vous la constatez? Muriel, je voudrais préciser que dans ma clientèle, j'ai essentiellement des femmes et qui ont les moyens de se payer un massage. Les plus jeunes, entre 25 et 35 ans, sont globalement sans enfants, en couple ou pas. Deuxième tranche, des femmes de 45 à 55 ans, généralement avec des enfants, maman solo ou en couple. Et une dernière tranche, des femmes de plus de 75 ans, veuves, assez isolées. Ces trois catégories ont des façons différentes de s'exprimer par rapport à leur être psychique. J'observe chez les jeunes une plus grande augmentation de la capacité à délivrer des détails sur leur santé mentale, plus que sur leur santé physique. Sont-elles pour autant plus touchées parce qu'elles en parlent plus? Dans les soucis évoqués, le burn-out, l'épuisement professionnel, parfois familial. Elle me parle aussi des traumas du passé, m'indiquant par exemple des gestes que je ne peux pas faire, qui rappellent des événements traumatiques. Ou de troubles de santé physique non expliqués qui renvoient à la question posée par elle-même ou à travers les conclusions d'un médecin de leur équilibre psychique. Eleni, le fait, chez les plus jeunes, de pouvoir s'exprimer à propos d'anxiété, de dépression, d'un trouble de l'attention, etc., dans un jargon psy, plus accessible aujourd'hui, là où des femmes plus âgées n'y ont pas nécessairement accès, a toute une série de conséquences, tant pour ces femmes âgées qui n'ont pas le langage adéquat, que pour ces jeunes femmes très vite catégorisées en raison même de son utilisation. Si elles en retirent le pouvoir d'expliquer ce qu'il se passe dans leur monde intérieur, le jargon ne leur appartient pas. Il est utilisé pour les étiqueter plutôt que pour qu'elles s'en emparent. De quoi souffrent les femmes? Muriel. Ce qui me marque, c'est la question du rapport traumatique aux hommes, sachant qu'on a pas mal éclairé la question des violences depuis quelques années. Il y a aussi la question de la charge mentale et une certaine intériorisation des stéréotypes. Il reste une certaine culpabilité à prendre du temps pour soi. Je m'assure de moments pour se poser avant et après massage, parce que je me suis rendu compte à quel point c'était difficile pour les femmes de déconnecter avec ce qu'elles vivent à l'extérieur, même quand elles sont dans des conditions favorables. Eleni, il y a dans le monde 3 fois plus de tentatives de suicide chez les femmes. Il y a aussi une précarité, pas plus importante que chez les hommes, mais plus compliquée, par le fait d'avoir subi des violences intrafamiliales en hausse pendant la COVID. Elles doivent quitter leur domicile, prendre soin de leurs enfants, avec tout un traumatisme à digérer. Il y a des phénomènes très particuliers à gérer quand on est une femme. Dans la prise en charge psychiatrique, que je vais qualifier d'oppressive, il y a des gestes posés sur le corps de femme qu'elle compare à un viol. elles resubissent un abus, différent et similaire. Je veux aussi souligner qu'il y a d'autres publics encore plus impactés. Les hommes racisés, vus comme dangereux, sont surreprésentés dans les hospitalisations sous contrainte. On voit aussi une surreprésentation des personnes trans. Vous écoutez Santé mentale, le pouvoir d'expliquer ce qu'il se passe dans nos mondes intérieurs, un texte de Véronique Laurent paru le 7 janvier 2025 dans Axel. Les diagnostics sont orientés par des biais racistes, sexistes et de classe. Eleanie, je le constate. Quand on rentre dans une salle d'urgence psychiatrique, ça saute aux yeux. C'est impressionnant qu'on n'en parle pas plus. La plupart de ces personnes sont d'un statut socio-économique précaire. Si on ajoute à ça la question des origines, de la migration, les stéréotypes sont d'autant plus explosifs. Ce ne sont pas des facteurs individuels inhérents, mais ces personnes ont des parcours de vie beaucoup plus compliqués. Y a-t-il des diagnostics plus régulièrement posés sur les femmes? Eleanie, on voit un risque de diagnostic des troubles de la personnalité 4 fois plus grand. Et le trouble le plus posé est celui de borderline. Dès qu'une femme entre dans un service avec ce diagnostic, c'est foutu. C'est quelqu'un qui va cliver l'équipe. Essayer de manipuler, qui veut de l'attention, qui a des problèmes d'attachement. Toute une série de stéréotypes viennent avec cette étiquette. Le soin est de plus en plus éloigné des besoins de cette personne qui souffre. Les femmes sont aussi beaucoup plus à risque d'être diagnostiquées avec des dépressions sévères, dont une offre de traitement est les électrochocs, vers lesquels 3 à 4 fois plus de femmes que d'hommes sont orientées, avec des conséquences. Lésions cérébrales, effet sur la mémoire. Il y a un effet de loupe. Les femmes qui souffrent par leur condition de femme sont diagnostiquées de pathologies lourdes, très difficiles à casser par la suite, auxquelles on propose des traitements très risqués avec séquelles qui renforcent le diagnostic. On n'a pas appris du passé. Eleanie, la psychiatrie et la médecine en général sont fondées sur l'oppression des femmes. On connaît l'histoire des chasses aux sorcières, au savoir basé sur l'expérience. Toute une série d'hommes ont tenté d'en prendre possession en créant la médecine et la psychiatrie. La vague de la psychanalyse, qui, pour moi, pathologise la parole des femmes, a popularisé l'hystérie. On arrive aujourd'hui à une science qui se dit plus pure, mais qui répète les mêmes gestes sur le corps des femmes et des groupes opprimés. La psychiatrie se réinvente par rapport à un système patriarcal, capitaliste, raciste, mais elle demeure l'un de ses bras armés. Et les disparités du public se retrouvent dans les équipes soignantes, où les personnes qui vont faire les gestes corporels, laver les corps, tenir la main, donner à manger, sont en général plutôt des femmes, plus pauvres, racisées. Quand on monte les échelons, ça devient plus masculin et blanc. On sait les femmes majoritaires dans les métiers du care où le risque d'invalidité de longue durée est plus élevé, selon un rapport récent des mutualités libres. Ce qui pose la question de la pertinence des politiques publiques en matière de santé mentale. Muriel, la société dans laquelle on vit, agencée par les politiques, est quand même très paradoxale. Elle demande aux personnes qui travaillent avec l'humain d'être très humaines, alors que les institutions et les services dans lesquels elles travaillent les déshumanisent de plus en plus. Des responsables financiers ont pris la main sur les responsabilités habituelles des gestionnaires infirmiers. Il y a de plus en plus de pression en bout de chaîne sur les infirmières, les aides-soignantes, alors qu'elles travaillent avec des humains, qu'elles devraient être valorisées et pouvoir garder des étincelles. Eleanie, j'ajouterais, avec une patientèle qui augmente à cause de ces mêmes pressions et peu de travail sur la prévention, ce qui m'interpelle beaucoup. Dans d'autres pays, comme la Finlande, il est assez courant de créer des espaces dans les métiers du soin pour déposer des moments traumatiques, créer de l'entraide avec une hiérarchie soutenante. Par ailleurs, travailler dans un espace bienveillant nous permet aussi de veiller à notre accueil dans le milieu du soin. Les gens que je rencontre passent entre les mailles du filet parce que le premier accès aux soins est de plus en plus difficile à obtenir. Voir un médecin généraliste qui prend le temps, qui prend en considération les souffrances, voir une psychologue, une assistante sociale. Une série de services de première ligne s'écroule et la santé des gens se ruine. Est-ce qu'il se dessine des alternatives, d'autres façons de prendre soin? Muriel. Le terrain et les contacts quotidiens avec l'humain donnent beaucoup d'énergie et drainent beaucoup d'énergie. Ça pourrait être intéressant que, dans une même carrière, des personnes puissent passer beaucoup plus facilement du terrain au bureau, à l'administratif, à la structuration des services. J'ai toujours pensé que ça rendrait le regard plus large. Si des gens qui prennent des décisions pouvaient venir sur le terrain et les gens du terrain nourrir les réflexions, ce serait hyper intéressant et ça permettrait d'éviter une certaine lassitude et de revenir avec le feu sacré. Élénie, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est comment les gens parlent d'eux-mêmes, de leur monde intérieur, au-delà du jargon et des outils, on va dire dominants. Comment ils vont donner sens à ce qui leur arrive? Parce que les clés de réponse sont là. Les gens savent ce qui marche ou non, mais on doit se mettre dans les conditions pour pouvoir les entendre dans leurs besoins spécifiques. Et oui, avoir plusieurs casquettes ou changer de casquette à un moment donné. J'ai toujours dit aux psychiatres de notre équipe mobile qu'il aurait dû passer un peu de temps comme aide-soignante. Je crois que tous les médecins devraient le faire. Ces positions différentes nous donnent des savoirs qui ne sont pas statistiques ou qu'on apprend à l'école, mais des savoirs expérientiels, tacites, relationnels, qui sont pour moi beaucoup plus précieux et conséquents dans les manières dont on va travailler la question du care. C'était Santé mentale, le pouvoir d'expliquer ce qu'il se passe dans nos mondes intérieurs, un entretien dirigé par Véronique Laurent, paru le 7 janvier 2025 dans Axel.